question bien intéressante pour vous. Est-ce qu'un jour viendra où les hommes préféreront la mort à la vie? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse à ne pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense aux questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse aujourd'hui, et je me dis que pour certains, les réponses seront encourageantes, et pour d'autres, elles sont une super bonne mise en garde. À vous de constater ce que ces réponses représenteront pour vous. Donc voici les fameuses questions. L'Église du Seigneur Jésus a-t-elle à craindre la grande tribulation qui viendra sur la terre? Qui est l'étoile qui tombera du ciel, telle que décrite dans l'Apocalypse? Est-ce que l'enfer et le séjour des morts sont le même endroit? Jésus est-il descendu au séjour des morts? Où sera Satan pendant le millénium? L'abîme dont il est question dans le livre de l'Apocalypse est-il un endroit réel? Les sauterelles et la fumée mentionnées dans l'Apocalypse sont-elles réelles? Est-ce qu'un jour viendra où les hommes préféreront la mort à la vie? Restez à l'écoute. La parole de Dieu est sur le point de nous être enseignée par le pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien comprendre cet enseignement. Prions. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Qu'est-ce qu'on ferait sur cette terre sans elle, sans ta direction pour nos vies? Touche-nous, Seigneur, aujourd'hui. Aide-nous à marcher selon les principes que tu nous enseignes dans cette merveilleuse parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, les trois dernières trompettes sont séparées des premières, car on les appelle les trois trompettes du malheur. Nous avons terminé la dernière émission avec la fin du chapitre 8 du livre de l'Apocalypse. Je vous en fais la lecture. « Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Nous commençons aujourd'hui une des sections les plus bizarres de la Bible. Notre imagination se représente avec peine la scène décrite sous nos yeux. On a donné toutes sortes d'interprétations à ce chapitre, mais nous devons nous efforcer de rester les pieds sur terre. En faisant cela, nous prendrons conscience que nous n'avons rien à craindre des calamités décrites ici. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'aurez pas enduré toutes ces épreuves. Car à l'époque de la grande tribulation, l'Église aura été enlevée de la terre. Elle aura répondu à l'appel de son maître Jésus-Christ du haut des airs. Après cela, le monde, qui l'aura rejeté, devra subir son jugement. Ces malheurs marquent d'un sceau de ténèbres le temps le plus intensément douloureux de la grande tribulation. Ils sont généralement associés aux dernières trois années et demie de la 70e semaine de Daniel, qui correspond à la période de la grande tribulation. Ces jours seront les plus sombres de toute l'histoire de l'humanité. Le langage utilisé dans cette section est assurément difficile à comprendre. Mais cela ne nous empêche pas de nous en tenir à notre principe d'interprétation littérale. Et cela, même quand les figures adoptées sont des plus étranges. Si un autre genre d'interprétation doit être adopté, l'apôtre Jean nous le dira. La cinquième trompette, l'étoile tombante et les sauterelles. Non, l'étoile tombante et les sauterelles n'est pas le nom de nouveaux groupes de musique pop. Le monde où nous vivons aime beaucoup les étoiles montantes, mais ici, la Bible nous décrit une étoile tombante au son de la cinquième trompette. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 9, le verset 1. « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » Nous avons déjà vu deux corps célestes tomber sur notre planète. Au son de la deuxième trompette, quelque chose ayant l'aspect d'une grande montagne embrasée a été jeté à la mer. Et au son de la troisième trompette, une grande étoile ardente est tombée sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Ces étoiles, ou météorites, seront réelles et elles doivent être interprétées au sens littéral. Par contre, l'étoile tombante dont il est question ici est un être vivant. Dans notre verset, elle reçoit la clé du puits de l'abîme et au prochain verset, elle l'ouvrira. Il s'agit donc d'une créature douée d'intelligence. Il s'agit donc d'un personnage inhabituel et différent des autres corps célestes mentionnés au dernier chapitre. Car aucune véritable étoile ne pourrait déverrouiller une porte. Je le répète une autre fois. Lorsque l'auteur utilise un langage figuré, il nous le fait clairement comprendre. De plus, lorsqu'il utilise un symbole, ce symbole représente toujours quelque chose ou quelqu'un de réel. Nous devons donc identifier la personne symbolisée par cette étoile. Certains ont exprimé l'avis qu'il s'agissait de l'Antéchrist. Si cela est vrai, cela apporterait du poids à l'idée que l'Antéchrist est l'incarnation de Satan. Mais je n'accepte pas ce point de vue. L'Antéchrist est littéralement ce que son nom implique. Il est tout ce que Jésus-Christ n'est pas. Toutefois, il est motivé par Satan. Je pense plutôt que cette étoile est Satan lui-même. Et bien sûr, l'identification de Satan à une étoile se trouve dans un autre passage de la Bible. Chez le prophète Ésaïe, chapitre 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Astre brillant est un des noms donnés à Lucifer. De plus, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus nous partage sa vision de la chute de Satan. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Finalement, si nous prenons un peu d'avance dans notre lecture, l'apôtre Jean nous déclare dans Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9 que Satan a été précipité du ciel sur la terre. Ces passages, pris ensemble, nous confirment que Satan est bien l'étoile mentionnée dans notre passage. Et que fait-il une fois chassé du ciel? Il reçoit la clé du puits de l'abîme. Cela signifie évidemment que Dieu la lui a remise. Une clé est un signe d'autorité et de pouvoir, et ces choses lui viennent de Dieu. Car toute autorité et tout pouvoir ont été donnés à Jésus-Christ, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le séjour des morts, le puits de l'abîme et le long conduit menant à l'abîme. Dans l'Ancien Testament, le mot traduit ici par « abîme » décrit ce qui était auparavant un puits ou une citerne avant d'être mis à sec. Une fois asséché, se troussèrent de tombeaux ou de dépotoirs. Ce double emploi est peut-être la raison pour laquelle l'abîme est identifié avec le séjour des morts ou l'Hadès des Grecs. Rappelons-nous seulement, comme nous l'avons déjà vu, que ce séjour des morts et l'enfer ne sont pas la même chose. Dans le texte original, le mot traduit ici par « abîme » est « abyssos », d'où est également tiré notre mot « abysse ». Il est tiré de « bussos », qui désigne le fond de la mer, et du préfixe privatif « a »,« abyssos », indique alors un trou ou un puits sans fond. Jésus-Christ faisait probablement référence à cet abîme lorsqu'il enseigne dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le Seigneur parle ici de sa descente dans le sein de la terre après sa crucifixion. Le corps de Jésus n'a pas été vraiment enterré. Il a plutôt été déposé dans une espèce de caveau. Il n'a certainement pas été enfoui dans le sein de la terre. Dans le langage de Matthieu, on peut comprendre que Jésus est allé dans l'abîme, qu'on peut identifier au séjour des morts, ou l'Hadès des Grecs, ou encore le Shéol des Hébreux. on trouve une autre référence à cet endroit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il s'agit de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lorsque les deux hommes meurent, ils se retrouvent tous les deux au séjour des morts, et au verset 26, il est précisé que, dans le séjour des morts, les justes et les impies sont séparés par un grand abîme infranchissable. L'homme riche est allé dans un endroit de tourment, et Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Après sa crucifixion, le Seigneur est descendu au séjour des morts pour annoncer aux sauvés sa victoire. Il les a ensuite conduits en présence de Dieu. À mon avis, l'apôtre Paul parle de cet épisode dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 et 9. « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts afin d'annoncer aux justes leur rédemption. Au début du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Jean nous révèle qu'actuellement, c'est Jésus qui détient les clés de l'abîme. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dans notre passage, Jésus donne-t-il personnellement les clés du puits de l'abîme à Satan ou charge-t-il un ange de s'en occuper? La Bible ne semble pas le préciser. Cependant, il est étrange de constater que Satan ouvre lui-même l'endroit qui lui servira de prison pendant 1000 ans, comme nous le verrons au chapitre 20, versets 2 et 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. D'ici là, il semble que certains démons sont déjà emprisonnés là, comme l'affirme 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, et aussi, dans l'Évangile selon Luc chapitre 8, versets 30 et 31, Jésus s'entretient avec la légion de démons. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, « car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Cet abîme est donc un endroit réel, et il doit être interprété dans son sens littéral. Selon la Bible, le séjour des morts est un endroit réel, tout comme le ciel. Ces endroits ne sont pas mythologiques ou fantastiques. Ils sont tout aussi réels que la terre où nous vivons présentement. Pendant la dernière partie de la grande tribulation, la clé du puits de l'abîme est donnée à Satan. En même temps, il obtient une liberté plus grande que jamais auparavant. Plus tard, nous verrons que, pendant cette période, les hommes ne peuvent plus mourir. Satan tient à les garder en vie. Il ne veut pas décimer son armée. Je pense qu'à l'époque de la grande tribulation, les vivants enverront les morts. Les sauterelles sortent de la fumée. Retournons à notre texte de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 2. « Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Elle, c'est l'étoile à qui la clé du puits de l'abîme a été remise. » Il s'agit donc d'une personne. Aussitôt, elle se sert de cette clé pour ouvrir le puits. De ce trou sans fond jaillit une fumée, comme celle d'un volcan dans son premier stade d'éruption. La fumée et la cendre venant du puits sont si opaques que le soleil, déjà diminué du tiers de son éclat, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, s'en trouve encore plus obscurci. Depuis quelques décennies, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les dinosaures seraient disparus à la suite d'une gigantesque éruption volcanique dont la fumée et les cendres auraient obscurci la Terre, entraînant une baisse subite de la température globale. Pour certains, cette éruption aurait été provoquée par la chute d'un gigantesque météorite. Les dernières données scientifiques semblent donner un appui à une interprétation littérale de la Bible. En passant, des études géologiques de la croûte terrestre tendent de plus en plus à confirmer que notre planète a déjà subi plusieurs cataclysmes à l'échelle planétaire. La stabilité relative des derniers siècles n'est peut-être, après tout, qu'une brève accalmie. Lisons les versets 3 et 4, toujours de l'Apocalypse, chapitre 9. « Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ici, le naturel laisse sa place au surnaturel. Même les invasions de sauterelles ordinaires constituent une calamité pour les récoltes et les cultures. Lorsque le pharaon d'Égypte a refusé de laisser le peuple d'Israël avec Moïse, Dieu a envoyé des sauterelles dévaster le pays d'Égypte. Elles sont devenues une des plaies d'Égypte. Mais les sauterelles décrites ici sont encore plus terribles. Elles se distinguent des sauterelles habituelles par plusieurs points, habilement répertoriés par Govet dans son livre sur l'Apocalypse. Premièrement, elles ne causent aucun tort aux récoltes ou à la végétation, ce qui est bien sûr tout à fait inédit pour des sauterelles. Pourquoi? Parce que l'ordre leur est donné de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Deuxièmement, certains insectes, comme les abeilles, ont une reine pour les diriger. Mais les sauterelles n'obéissent ordinairement à rien ni personne. Comme l'affirme Proverbe 30, verset 27, « Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. » Mais ici, les sauterelles obéissent à des directives qui vont à l'encontre de leur instinct naturel. Troisièmement, pendant les plaies d'Égypte, l'auteur inspiré affirme, dans Exode chapitre 10, verset 14, « Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. » Les sauterelles qui affligeront les hommes au temps de la grande tribulation seront peut-être moins nombreuses, mais elles seront plus redoutables. Quatrièmement, malgré ces différences, ces sauterelles sont quand même des créatures réelles et ce verset doit être interprété littéralement, tout comme le lion, le cheval, le scorpion et l'homme. Cette invasion de sauterelles est tout aussi littérale que la plaie d'Égypte. D'autre part, le premier chapitre du prophète Joël prophétise également sur une invasion future de sauterelles. Rappelons une autre fois qu'une connaissance de base de l'Ancien Testament constitue un préalable incontournable à une bonne compréhension du livre de l'Apocalypse. La différence entre les sauterelles de l'Apocalypse et celles de l'Ancien Testament est leur caractère et leur cible. Car ici, l'objet de leur destruction n'est pas les récoltes, mais les hommes pécheurs. Par contre, on se rappelle que, lorsque l'ange exterminateur est passé sur l'Égypte pour tuer les premiers-nés, il a épargné le peuple de Dieu à cause du sang d'agneau répandu sur les portes. Dans l'Apocalypse, ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front seront épargnés par les sauterelles. Une douleur intolérable. Apocalypse, chapitre 9, verset 5. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Le scorpion ressemble à un crabe et son dard se trouve dans sa queue. Même si son venin n'est pas fatal, il est très douloureux. Mais habituellement, les scorpions ne volent pas comme des sauterelles. On arrive à peine à imaginer les tourments que causeront ces sales bestioles. Le livre de Josué nous donne un aperçu de ces inconvénients avec un fléau similaire, mais de moindre gravité. Celui des frelons, dans Josué chapitre 24, verset 12. « Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. » Pour les non-initiés, comme moi, les frelons sont des grosses guêpes dont la piqûre est très douloureuse. Nous pouvons donc voir que les croyants vivant à l'époque de la grande tribulation sauront reconnaître la main de Dieu derrière toutes ces calamités, car on en retrouve un échantillon dans l'Ancien Testament. Les vivants enverront les morts. Verset 6. « En ces jours-là, Les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. La clé du puits de l'abîme est remise entre les griffes de Satan. Ce puits conduit vers l'abîme où les esprits des morts qui nous ont précédés sur la terre résident présentement dans l'attente du jugement de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a visité cet endroit afin d'annoncer la rédemption qu'il avait obtenue sur la croix en notre faveur. Cette rédemption, ce salut éternel, est offert à tous ceux et celles qui le reçoivent personnellement par la foi en croyant en lui. D'un autre côté, Satan ne veut pas que les pécheurs meurent, et au temps de la grande tribulation, seuls les pécheurs perdus seront attaqués par les sauterelles au venin de scorpions. Ces jours-là seront tellement difficiles que les hommes essaieront de se suicider, mais ils en seront incapables. Satan veut les garder en vie, car ils sont des pions dans la guerre qui se livrent les forces de la lumière et les forces des ténèbres. D'autres ont émis l'opinion que c'est Dieu qui ne veut pas laisser les hommes mourir, car l'homme pécheur doit assumer les conséquences de sa rébellion, sans pouvoir y échapper par le moyen facile de la mort. La décision de rejeter et de mépriser Jésus-Christ doit être prise au sérieux. Même aujourd'hui, beaucoup de gens pensent être trop occupés pour accorder du temps à une prise de décision concernant Jésus-Christ, et ils remettent cette question au lendemain. Mais il est parfois trop tard, car la mort frappe sans prévenir. Je suis d'accord pour dire qu'il existe beaucoup de choses importantes dans la vie. Elles devraient prendre la deuxième, troisième et quatrième place dans votre vie. Mais votre décision la plus importante est d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ, car aucune autre décision n'aura un impact sur votre éternité. C'est pourquoi, à mon avis, Dieu ne permettra pas aux gens de mourir pendant la grande tribulation. Rappelons-nous que l'influence de Satan sur le monde ne connaîtra plus de limite à ce moment-là. En d'autres mots, les plaisirs illusoires du monde exerceront un attrait sans précédent sur les pécheurs spirituellement aveuglés. Mais la seule manière pour eux d'être délivrés du venin des sauterelles sera de recevoir Jésus-Christ. Et au fond, ne vaut-il pas mieux souffrir pour un peu de temps pendant cette vie ici-bas afin d'être délivré et de pouvoir vivre heureux avec Dieu pour l'éternité? Au chapitre 14 de l'Évangile de Luc, Jésus présente cette parabole sur les temps de la fin. Dieu convie les hommes à un grand banquet, mais ceux-ci sont trop absorbés par leur propre intérêt. Le maître dit alors à son serviteur de convier les aveugles et les boiteux. Et, comme il est écrit au verset 22-23, le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Gloire à Dieu, qu'il prenne parfois les grands moyens pour contraindre les hommes à entrer dans son royaume. Car le Père connaît mieux que ses enfants ce qui est bon pour eux. Cher ami, as-tu l'assurance et la certitude de pouvoir entrer dans ce grand banquet en présence de Dieu? Il y a encore de la place, pour l'instant. C'est le temps de la grâce. Dieu est prêt à te pardonner et à te donner l'assurance de la vie éternelle si tu reçois maintenant Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur de ton existence. Oui, tourne-toi vers lui, abandonne ton péché et reçois-le comme ton Sauveur personnel. As-tu déjà en ta possession le signe d'appartenance à Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse chapitre 9, les versets 7 à 19. À vous tous, bonne lecture!
Merci, Régent. Mes amis, je suis contrainte de vous répéter ce que Régent a dit au début de l'enseignement d'aujourd'hui. C'est tellement encourageant pour nous, les croyants. Alors voici textuellement. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'aurez pas à endurer toutes ces épreuves, car à l'époque de la grande tribulation, l'Église aura été enlevée de la terre. Elle aura répondu à l'appel de son Maître Jésus-Christ du haut des airs. Après cela, le monde qui l'aura rejeté devra subir son jugement. Mes amis, après un message comme celui d'aujourd'hui, comment ne pas être reconnaissant envers Dieu de nous permettre encore, dans le temps où nous vivons, de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Personnellement, ça fait plus de 30 ans que j'ai reçu ce cadeau. Ça fait 3 décennies que je suis certaine que le jour où je mourrai, ou le jour de l'enlèvement de l'Église, si je ne suis pas encore décédée à ce moment-là, j'irai dans la présence de Dieu pour l'éternité. Bien sûr, je me réjouis du fait que j'éviterai toutes les calamités qui nous ont été mentionnées aujourd'hui par la bouche de Régent, mais je me réjouis encore plus du fait que je vais finalement voir mon bien-aimé Sauveur Jésus face à face. J'ai une vision tellement obscure de ce Sauveur merveilleux aujourd'hui. Oh, la Bible nous le décrit, comme par exemple dans le livre d'Ésaïe à la fin du chapitre 52 et au chapitre 53, on peut voir combien il a été défiguré à cause de nos péchés, et on peut le revoir dans les Évangiles. Parfois, il me semble que je vois son visage alors qu'il agonisait sur la croix. Si j'avais été là en personne avec les autres qui le regardaient, son visage aurait sans doute croisé le mien, et je suis certaine que j'y aurais vu plein d'amour et de compassion. Car il ne pensait pas à lui-même, mais il pensait à moi, une des personnes pour qui il était en train d'expier les péchés. Mes amis, je souhaite de tout cœur que vous soyez parmi les gens qui verront le visage de Jésus et qui passeront l'éternité dans sa présence, dans la joie, dans la paix, goûtant pleinement à son amour. J'espère que vous serez parmi ceux qui éviteront tous les fléaux prédits dans l'Apocalypse aussi. Donc, je ne peux m'empêcher de vous répéter ce que Régent et moi disons bien souvent, puisque c'est notre but premier en annonçant l'Évangile. Mes amis, pendant qu'il est encore temps, reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Tout comme Régent et moi, demandez pardon à Dieu. Prenez la décision de ne plus vivre dans le péché et tournez-vous vers Jésus, qui a les bras tout grands ouverts pour vous. Demandez-lui de vous sauver, de vous donner la vie éternelle. C'est pas plus compliqué que ça. Un jour, Paul et Silas ont dit ceci à un homme. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alors, de la même manière que ses bras étaient étendus sur la croix, aujourd'hui, ils sont encore ouverts. Mais ils sont ouverts pour toi, pour t'accueillir, pour te recevoir dans son amour. Il veut te sauver maintenant. Il veut que tu ouvres ton cœur, que tu le laisses entrer. Il veut faire sa demeure chez toi. Il veut souper avec toi. Il veut être intime avec toi. Maintenant, il veut prendre soin de toi. Il veut t'amener jusqu'au jour où tu vas entrer dans sa présence, dans son ciel, pour être avec lui, pour vivre avec lui éternellement dans la joie, dans la paix. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne, et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.